Comment s'est formé le groupe Seven Weeks?
Oh ben, comme beaucoup de groupes, je suppose, c'est-à-dire des gars qui ont les mêmes influences, les mêmes envies. Et à l'époque, c'était en 2006 qu'on s'est rencontrés tous et on voulait faire quelque chose d'assez heavy, d'assez lourd, mais en même temps très mélodique. À cette époque-là, les groupes comme Queen of the Stone Age ou Foo Fighters étaient des groupes qui avaient un impact assez considérable sur le retour du rock. Et on voulait être dans cette mouvance-là. Et on a commencé, moi j'ai commencé à maqueter des morceaux, et puis j'ai trouvé des gens pour les jouer, qui avaient un peu les mêmes envies, et puis c'est parti comme ça, et à partir de 2007, on a commencé à faire des concerts.
Vous venez d'évoquer Queen of the Stone Age et Foo Fighters, qui sont des groupes heavy rock, stoner et tout ça. Comment est-ce que vous définissiez votre style musical?
Nous, on dit qu'on fait du heavy rock parce que longtemps on a été catalogué stoner ou metal et ça fait partie de nos influences, mais c'est pas du tout pour nous le style qu'on fait. Nous on fait vraiment un rock qui est lourd. J'entends par lourd que ce soit dans les tempos aussi dans la manière de composer, c'est quelque chose d'assez on est puissant, on n'est pas violent. Le metal peut être violent, nous on est, c'est pour ça qu'on n'est pas metal, on est plutôt puissant, violent. Donc les J-Rock, c'est quelque chose qui nous semble bien convenir à ce qu'on fait, et on a un aspect aussi très mélodique qu'on met en avant, donc ce côté rock est important pour affirmer ce plan-là, quoi.
Comment est-ce que s'organise la composition au sein du groupe? Est-ce que chacun vient avec une petite idée, ou est-ce que quelqu'un vient avec un morceau plus ou moins défini et vous brodez dessus?
Non, ça dépend. Je suis le principal compositeur du groupe depuis le départ. C'est ce qui a permis au groupe, malgré les divers changements de line-up, de garder une unité dans le son et dans la couleur. Donc il n'y a pas de recette. Il y a des morceaux qu'on a fait en groupe à quatre, comme on a des morceaux qu'on a fait où j'ai quasiment tout composé de A à Z à part la batterie, et même tout enregistré en studio. Ça dépend vraiment de l'effet voulu, de l'effet recherché, de la dynamique du groupe à tel ou tel moment de la composition et du line-up aussi, puisqu'on a des albums qu'on a composés et enregistrés à deux avec le batteur, puisqu'on est les deux seuls du début qui restons de la formation de base. Il n'y a que Jérémy et moi qui sommes là depuis le départ. Et en 2015 par exemple, en 2016 on a sorti un album qu'on a enregistré et composé à tous les deux uniquement, donc il n'y a pas de recette.
Vous avez sorti un EP qui s'appelle What's Next, en lien avec les morceaux de votre précédent album. Pourquoi justement ne pas les avoir sortis sur cet album Sisyphus en 2020?
Parce qu'à part un, le premier titre, Intimate Hearts, les autres n'existaient pas, donc on n'aurait pas pu les sortir. Intimate Hearts, on l'a mis de côté parce qu'on le trouvait trop sombre par rapport au reste de l'album, qui est peut-être l'album le plus lumineux, le plus solaire de toute notre discographie. Et celui-là était un peu sombre, on avait dit que c'est pas la peine de le mettre dans le tracklist, il va un peu déséquilibrer l'homogénéité de l'album. On pourra sortir en single plus tard, et bien sûr on savait pas que il allait se passer ce qui s'est passé, quoi. Et quand on s'est retrouvé pendant le premier confinement, on s'est dit on va pas rester à rien faire, donc on a commencé à bosser sur des singles à sortir. Donc on avait celui-là, le Ultimate Hearts, qui était déjà écrit et mixé, et puis on a commencé à bosser sur une reprise de King Crimson. Et puis on avait aussi d'autres morceaux qu'on n'avait pas eu le temps de finaliser, qui étaient restés à l'état d'ébauche de travail, comme My Valhalla, qui est disponible sur la version vinyle. Et on avait des acoustiques, on avait envie de faire des acoustiques qu'on n'avait pas mis dans Sisyphus. Et donc c'était l'occasion, on a réuni tout ça dans ce EP, et on tenait à ce qu'il y ait un lien vraiment très très fort avec Sisyphus, parce que pour nous c'était la réponse au fait que Sisyphus n'avait pas pu être exploité. Et tous ces morceaux ont un rapport, c'est-à-dire que les acoustiques sont des morceaux de Sisyphus mais en acoustique, et les autres morceaux sont soit des morceaux, enfin ce sont des morceaux qui auraient dû être sur Sisyphus parti à une période où on avait poussé dans cette direction-là. Et il s'est avéré qu'on avait, qu'on a préféré aller dans une autre direction, mais ils ont tous un rapport avec Sisyphus. Ils ont fait partie de la même période de travail et de composition, par exemple. Donc c'était important pour nous qu'il y ait une vraie logique. Et c'est ce qu'on a mis en avant avec ce EP. Et pour finir, ce qui est très important aussi, c'est que Sisyphus est très symbolique dans ses textes et dans sa manière d'être, notamment au niveau de ce qu'on a voulu dire, c'est-à-dire ce besoin perpétuel d'avancer malgré les embûches, qui est un peu toujours la vie d'un groupe de rock. Et What's Next est vraiment la preuve qu'on avait envie de se relever après la chute du rocher de Sisyphus, qui est arrivé très rapidement, puisque un mois après la sortie de l'album, on était en confinement, quoi.
Justement, tu viens de parler du confinement, de la Covid-19. Tu viens de parler de ce qu'a vécu le groupe pendant la Covid-19. Mais toi, personnellement, comment as-tu vécu cette crise sanitaire ?
Je dirais plutôt bien au vu de la situation, parce que on a tout de suite trouvé... c'est l'avantage d'être un groupe indépendant, comme on est. C'est-à-dire qu'on est nos propres producteurs, on est notre propre label. À part la distribution, on fait tout. Et l'avantage de ça, c'est que c'est beaucoup de travail, mais en même temps, ça nous permet de réagir très rapidement. C'est-à-dire que en fin avril, on savait qu'on allait faire un disque. Et on l'a enregistré en juillet. Donc ça va très vite. Ça, si tu as d'autres personnes autour de toi, des intermédiaires, un label et tout, tu peux pas mettre ça en branle en 2 mois, c'est impossible. Nous, on peut, on a les moyens de le faire, là, on a la réactivité nécessaire. Donc en fait, on s'est jamais retrouvé à rien faire et à subir la situation. On a tout de suite travaillé sur le EP. Ensuite, on a travaillé sur des clips pour illustrer ce EP. On a fait 4 clips. Donc, on a été hyper occupés. Et puis, on a plusieurs cordes à notre arc, c'est-à-dire que, par exemple, on a travaillé des morceaux acoustiques parce qu'on s'est dit, si ça se trouve, il va y avoir que des possibilités de faire des concerts acoustiques. Et comme on venait d'enregistrer un album avec des morceaux acoustiques, on s'est dit, pourquoi pas en travailler plus. On a aussi retravaillé sur un ciné-concert qu'on avait fait il y a quelques années, parce qu'on s'est dit, quitte à faire des concerts assis, autant le faire dans des vraies conditions, c'est-à-dire proposer un ciné-concert qui est normalement un concert qui est dans une salle de cinéma, donc forcément les gens sont assis. En fait, on était très occupés et on n'a pas arrêté. Donc, on l'a plutôt bien vécu, c'est-à-dire qu'on n'a pas vécu... Moi, j'ai des amis qui se sont retrouvés à se dire « Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On ne sait pas quoi faire et tout. » Nous, on savait quoi faire. Donc, ça nous a empêchés de s'apitoyer un peu sur notre sort. Donc je pourrais pas dire qu'on l'a mal vécu. Par contre, c'est vrai que ça commence à être long de pas faire de concert. Mais ça, c'est autre chose, on n'y peut rien, et puis c'est comme ça, quoi.
Beaucoup de magazines et de radios ont parlé de votre dernier album, rarement mauvais. Comment est-ce que vous avez vécu cela ?
Bien. Bien, c'est toujours agréable d'avoir des bons échos de ce que tu fais. Ce qui est gratifiant, c'est de... C'est super que qu'on nous dise votre album il est bien, mais ce qui est plus important pour nous, c'est que les médias évoluent. En fait, on va réussir à toucher des médias qu'on pouvait pas toucher avant, on va réussir à avoir des retours sur la qualité d'écriture, sur l'existence du groupe, le côté tenace du groupe, le côté conceptuel, d'être dans la recherche, de vraiment se renouveler à chaque album, ça c'est super. Moi je préfère quelqu'un qui va me dire j'aime pas tout l'album mais je trouve que c'est très osé, plutôt que quelqu'un qui va me dire votre album il est super comme tous les autres. Tu vois, c'est ce qu'on a vraiment ressenti avec Sisyphus et What's Next, c'est que les gens voyaient les prises de risques que l'on aime prendre, comme la reprise de King Crimson qu'on a fait, qui est vraiment un groupe que personne n'aurait pensé que ça venait, que ça allait reprendre, ou des acoustiques qu'on nous attendait pas vraiment là, quoi. Et ça, c'est les prises de risques, et c'est très agréable de voir que ça plaît, parce que nous, c'est ce qu'on aime, c'est jamais faire la même chose.
Tu penses qu'il est vital pour un groupe de justement pouvoir s'adapter, justement se mettre dans des... sortir de sa zone de confort pour pouvoir évoluer?
Je sais pas, moi j'adorerais être ACDC, tu vois. C'est-à-dire j'adorerais avoir une recette qui est tellement fédératrice que t'as même pas besoin de la changer. c'est pas que ACDC sont des fainéants ou quoi que ce soit, c'est que juste qu'ACDC c'est tellement génial que tu t'en fous que ça soit un peu toujours la même chose. Je connais très bien ACDC, c'est pas toujours la même chose, mais on est toujours dans le même, les mêmes gimmicks, un peu la même manière de faire et tout, mais c'est tellement incroyable, c'est tellement parfait que c'est pas grave. Mais nous on n'est pas dans cette déjà on n'est pas du tout dans cette classe là donc j'estime que des groupes comme nous qui sont des groupes de seconde zone, on fait pas partie des grands groupes comme des grands groupes, il y en a, on les connaît tous, nous on est un groupe comme des milliers, des dizaines de milliers d'autres. Le seul truc que tu peux faire, je pense, c'est te renouveler, parce que si tu fais toujours le même album alors que t'es pas connu, ça n'a pas grand intérêt, quoi. C'est pas très excitant. Alors je donne aucune leçon, chacun fait ce qu'il veut, mais nous on pourrait pas faire toujours le même album, déjà parce qu'on n'y arriverait pas. On a déjà essayé, hein, on n'y arrive pas. Quand t'as sorti tes riffs une fois d'une telle manière, je sais pas comment tu peux en faire d'autres. Nous on peut faire on n'a pas vraiment de limite en fait. D'accord. Donc on aime bien se renouveler.
Maintenant, Julien, si ça ne te dérange pas, j'aimerais te poser des questions un petit peu plus légères et qui permettent d'apporter un petit peu de fun à l'interview. Je préfère garder ça pour la fin. Si vous deviez jouer avec Seven Weeks dans n'importe quelle salle ou festival, vous iriez où ?
Je suppose que j'aimerais bien vivre un vrai concert là où le rock est vraiment culturel, c'est-à-dire au fin fond des États-Unis, au fin fond des États-Unis, c'est-à-dire dans un ballroom, un truc comme ça. J'aimerais bien vivre ça avec un public qui est là parce que ils n'écoutent que ça depuis toujours. C'est leur musique, c'est leur truc. Ça, j'aimerais bien vivre, c'est-à-dire aller tourner aux États-Unis, mais vraiment tourner dans les endroits vraiment des États-Unis profonds, là où c'est la patrie du blues, du folk, du rhythm and blues, du rock and roll, là où c'est mieux, quoi. J'aimerais bien aller voir ce public-là et en même temps, je serais terrorisé de le faire. Mais parce qu'on se rend pas compte ici, mais il y a une vraie dimension culturelle concernant le rock avec les pays anglo-saxons que nous on perçoit pas ici, quoi. Mmh. Là-bas, tu peux pas tricher. Donc ici, on est un peu plus, c'est un peu plus facile ici. Voilà.
Un groupe avec qui vous aimeriez beaucoup travailler ?
Bon, il y en a plein. Il y en a plein parce que je dirais tous les groupes dont on est fan, mais donc la liste elle est hyper longue parce qu'on écoute quand même beaucoup de choses. Je sais pas, moi, toutes nos idoles, quoi, tu vois, elles sont pas encore toutes mortes, heureusement, donc j'adorerais travailler avec King Crimson comme j'adorerais travailler avec Metallica, tu vois, il n'y a pas de. Peu importe, en fait, ça doit être génial de rencontrer des gens comme ça qui sont de telles icônes et qui ont apporté autant à la musique. Ouais, j'aimerais bien travailler avec n'importe laquelle des idoles qu'on peut avoir, quoi.
D'accord. Si tu devais prendre 3 albums sur une île déserte en attendant les secours, tu prendrais lesquels et pourquoi ?
Alors, je prendrais. Je pense que je prendrais And Justice for All de Metallica. Parce que c'est le souvenir le plus fort de quand j'ai commencé à écouter de la musique, c'est le souvenir le plus fort de quand j'ai posé un disque sur la platine et que j'ai écouté le début du disque, l'intro de Black End, c'est un souvenir extrêmement fort. Donc c'est ma Madeleine de Proust, j'y suis extrêmement attaché. Donc je pense que j'emmènerai le live de Motorhead, No City Hammersmith. Parce que, pareil, c'est un truc très très fort. Et j'emmènerai Red de King Crimson. Parce que cet album est incroyable. Un des plus grands albums de toute l'histoire de la musique, je pense.
Si tu pouvais te parler à toi plus jeune, tu lui dirais quoi ?
je dirais faire pas de temps avec des blocs.
Très bien. Ok. Et du coup, y a-t-il des projets avec l'EP? Donc, il y a l'EP qui est sorti cette année, mais va-t-il y avoir de nouveaux clips musicaux, des live streams, et est-ce que vous travaillez sur de nouveaux albums pour 2021?
Oui, ce EP, on en a tiré 4 clips, ce qui est sur quand même 6 titres, donc c'est assez balèze. Je crois que c'est plus de clips qu'on a sortis dans toute notre carrière sur ce disque-là. Donc il y en a un qui est sorti encore fin janvier, là, le 31 janvier, on a sorti Sisyphus en acoustique. On a fait un live stream la semaine dernière, c'était vraiment... On a trouvé ça très très chouette à faire, même si bien sûr ça n'a rien à voir avec un concert avec du public, mais c'était émouvant en fait, presque, de pouvoir se retrouver dans la situation de concert quasiment. Et bien sûr, on prépare la suite. C'est un peu compliqué de préparer la suite. Tu voulais des questions, des réponses légères, je vais pas t'en donner, mais c'est un peu compliqué de préparer la suite parce que en fait, tous les 15 jours, la situation change et donc on est obligé de se repositionner. En décembre, en janvier, on devait faire des ciné-concerts. Donc, on a su, suite à l'allocution du demi-janvier de Castex, que on pouvait pas les faire. On s'est concentré sur un live stream. Ça, on a pu le faire. Là, on sait qu'on a des dates de concert à partir de avril, mais à mon avis, elles vont pas avoir lieu. Donc, bien sûr, en parallèle, on travaille sur des nouveaux morceaux. Mais comme tout le monde, parce que de toute façon, on a que ça à faire. Voilà, on essaye de prévoir un peu sur tous les tableaux, c'est ça qui est assez compliqué, c'est beaucoup de travail sans perdre la concentration et le but principal qui est de toujours développer le groupe et revenir sur scène à un moment, quoi.